tout de suite sur les docks. Irène, c'est à vous.
Mais oui, Hervé Gardette. Je suis votre ordre, c'est notre semaine justice des mineurs qui continue et nous vous proposons aujourd'hui de plonger dans l'adolescence de trois adultes qui ont connu la case délinquance. Aurélie, Michael et Fouad ont connu dès leur plus jeune âge l'étiquette délinquant et pour Camille Jusat, il est clair que la société a tout intérêt à éviter que les petits délinquants ne deviennent de grands bandits et qu'il faut pour cela faire confiance à la justice quand elle prend son temps et fait le pari de l'enfance.
Alors s'agit-il de trois histoires où justice et destin personnel vont conduire à un happy end?
D'une certaine manière, oui. En tout cas, trois histoires qui nous plongent dans la fabrique de la délinquance. Orphelin de 16 heures, corruption par les grands, petit délit, puis grand dérapage, garde à vue, puis détention. Cet engrenage peut être stoppé. La justice et la vie peuvent créer une autre histoire et une renaissance est possible. Ils sont trois et leurs paroles confiantes et précieuses.
Alors ça, c'est la liste de mes condamnations étant mineur en fait. C'est que la première page, là. Si vous levez les yeux au ciel, attendez de voir le reste. Donc, y en a une, deux, trois, quatre. Quatre pages et à peu près une dizaine de condamnations par page. Vol de cyclomoteur, fait commis le 1/07/1996 à Aubervilliers. Vol à la roulotte. Ces fameuses histoires de vol de poste, c'est ce qu'ils appellent vol à la roulotte. Donc ça, vous allez en retrouver beaucoup. Ça, c'était en 95.
Vous aviez 14 ans en 95.
Ouais. Ça a démarré tôt. Vol de cyclomoteur encore en 96. Déféré au tribunal, pourquoi ça? Un vol simple en 94. Vol de véhicule, vol simple. Vol d'accessoires sur véhicule, 97. Vol avec violence, sans arme, en 97. Là, on a défaut de permis de conduire, 97. Ça s'en passe des choses en 97. Recel, 97. Vol de véhicule, 98. Usurpation d'état civil, défaut de permis, j'ai dû donner un nom pour essayer de m'en sortir, peut-être. C'est sûr, non. Vol à main armée, ouais. Le fameux vol à main armée, ça c'est 29-10-99, Charenton-le-Pont. Vol à main armée. Le Valois Perret.
C'est pour ces deux-là que vous êtes tombé ?
Les deux.
Une adolescence délinquante, un documentaire de Camille Jusat et Julie Bérécy.
Il y avait même des articles dans Le Parisien qui parlaient de nous, de trucs comme ça. Donc, oh, une bande de filles fait mener la terreur de tel territoire à tel territoire. Mais ils ne pouvaient pas dire non. Et avec leurs petits frères, je ne sais plus quoi. Mais nous, ça nous a fait rire dans le sens où on s'est dit... Ils ont que ça à foutre, quoi, de... Je sais pas, il se passe tellement rien, quoi, qu'on est obligé de parler de nous. On a tué personne. Ayez peur, quoi, même les nanas s'y mettent, faut avoir peur, trembler. Si vous voyez un groupe de mecs, faut trembler. Si vous voyez un groupe de nanas, trembler, c'est ça qu'on veut montrer. Alors que j'avais 12 ans.
Faut savoir que, déjà, le brevet des collèges, je l'ai pas eu. Je l'ai pas eu parce qu'on avait des histoires avec un quartier autre, qui était le Bois-l'Abbé, en fait. Et le brevet des collèges devait le passer, c'était dans un collège à Champigny. Et comme j'avais des histoires avec les jeunes du Bois-l'Abbé, ben en fait ils m'ont attendu devant le lycée. Donc voilà, j'ai pas pu passer mon brevet, donc je suis sorti avant en fait. Je suis sorti avant pour éviter de me faire attraper à la fin, seul contre une bande rivale. Donc du coup j'ai pas passé mon brevet des collèges. Après ça j'ai décidé de me mettre de côté par rapport à l'école.
Tous les trois ont été ce qu'on appelle communément des mineurs délinquants. Des adolescents qui font peur à leurs voisins, aux passants et à la France entière par leur comportement souvent bruyant, parfois menaçant et même violent. Ils ont tous les trois tenu les murs, comme on dit, ceux de leur immeuble, de leur résidence ou de leur cité. Ils se sont souvent battus, seuls ou en bande, et ont aussi beaucoup volé, avant de verser, l'adolescence avançant, dans de la délinquance plus dure, les braquages et le deal. Aurélie, Michael et Foued ont été de ces adolescents dont les journaux font régulièrement leur une et certains politiciens leur chou gras. Ils ont aujourd'hui 25, 32 et 34 ans, sont rangés des voitures, ils ont disparu des radars policiers et judiciaires et même des existences invisibles. Parce qu'on braque toujours les projecteurs sur la jeunesse déviante, mais jamais sur ce qu'elle devient. Parce que les statistiques de la justice laissent sous silence le devenir des adolescents dits incasables. Nous avons voulu faire entendre ces trois-là. Ces anciens mineurs délinquants presque caricaturaux dans leur parcours et pourtant tirés d'affaires. Faire entendre comment ils sont entrés en délinquance, ce qu'ils y ont vécu et trouvé, comment la justice a protégé la première, s'est débattue avec le deuxième, quand elle a ignoré le troisième. Comment enfin, ils s'en sont tous sortis.
Alors là, on est dans le quartier des Hautes-Nouf, ce quartier où j'ai grandi. Donc voilà, ma famille était depuis 1960, à peu près 60-70, on commençait à venir. Ma grand-mère, mes oncles, ma mère. C'est l'une des premières familles de Black à avoir été dans un quartier, dans les quartiers de Hautes-Nouf. Tous des Antilles. Il y a 113 bâtiments ici. Et ça fait un grand cercle. Moi, j'habitais ici. Et voilà, ils ont cassé pile poil où j'habitais, moi. Mon bâtiment, il était là, sur ce côté-là. Ça a été détruit, apparemment, pour que il y ait moins de délinquance, donc la police puisse rentrer facilement dans le quartier à travers différentes routes. Avant, il y avait une entrée, une sortie. Il fallait pas se tromper d'endroit pour sortir. Mon terrain de jeu, c'était la terrasse qui était là avant. Il y avait des petites choses où on pouvait courir, sauter par-dessus les terrasses, en fait. Et j'ai grandi là-dessus parce que du coup, j'avais pas forcément, au début, quand j'étais petit, droit d'aller plus loin. Il faut savoir qu'il y avait tellement de choses qui se passaient ici avant. Il y avait beaucoup de Chinois, par exemple. Et ça se battait entre voilà, les Chinois de Belleville et ceux d'ici. C'était beaucoup de jeux. Donc moi, j'ai des images dans le temps de ma fenêtre de voir des gens courir comme des ninjas et tirer sur d'autres gens, en fait. Les gens restaient au sol, avant il y avait par exemple des toxicos, donc ça nous arrivait en tant que petits jouer à la cage à poules. Et on avait un monsieur qui était allongé sur un banc, et en fait on se rend compte qu'il est mort 6 heures après, quoi, en fait. Les papiers viennent le chercher, nous on joue à côté de lui, voilà, c'est plein de trucs comme ça, en fait.
Ça va les enfants ?
Oui. Moi je suis né à Paris 12e à l'origine, et puis je grandis plutôt tranquillement jusqu'à mes 8-9 ans, on va dire. Puis je déménage à Aulnay-sous-Bois, au 3000, cité des 3000, où là, c'est une sacrée cité. Je vois des grosses guérillas urbaines où je vais avec mes copains pour voir ça. On est spectateurs de tout ça. C'est un film, en fait. Hein. Et à l'époque, vraiment, c'était quelque chose. Hein. Nous, on était des grosses embrouilles de bandes. Puis les cités des 3000, c'était pas un petit quartier, quoi. C'était vraiment... Nous, on allait, on était au milieu de tout ça, on regardait. On était comme un cinéma, alors que c'était un drame, en fait. Moi, ma mère, si vous voulez, ma mère a divorcé de mon père dès que j'avais 4 ans. J'ai pas vraiment connu mon père, je me rappelle plus vraiment de sa tête. Elle a fait les deux rôles. Je peux pas lui en vouloir ou lui faire des reproches. Franchement, elle a fait ce qu'elle pouvait. C'était pas évident pour elle. Donc voilà, environnement vraiment compliqué. L'école, on n'a pas réussi à me tenir avec l'école. On me donne pas les codes. Alors moi, je me fais tout seul, et se faire tout seul à mon âge à cette époque-là, c'est regarder par la fenêtre et voir les copains faire, enfin les copains, les grands faire. Et c'est pas du tout un exemple. Parce que quand je vois ces gars-là se balader en bécane, en voiture, j'ai l'impression que c'est la belle vie, moi. J'ai l'impression qu'ils s'amusent, qu'ils sont heureux, et que moi, c'est pas du tout, en fait. Je suis à l'école, je suis dégoûté d'y aller, je suis pas à ma place. On me le fait sentir, on me fait clairement comprendre que ça va pas bien se passer pour moi, donc il n'y a pas de projection. Moi, je me dis, plus vite je m'en vais, mieux c'est. Alors ça commence évidemment par traîner en bas de la maison, c'est le béaba, ça je pense que ça démarre toujours comme ça. Puis vous avez les grands qui le remarquent très vite, ça. Les orphelins de 16 heures, ça se remarque assez rapidement. Et j'en faisais partie. Alors sortant de l'école, j'avais pas de maison, donc pas de parents aussi. Alors je me baladais dans la rue, et puis les grands du quartier le voyaient. Donc ça commence par, ils vous envoient faire 2-3 trucs, acheter des canettes, des choses comme ça. Il y a une espèce de lien qui se crée, et puis ils sentent que vous êtes récupérable assez facilement, et donc voilà, ça commence par des petits larcins. À l'époque, c'était très à la mode, les vols de poste. Donc on faisait beaucoup ça. Alors ils nous envoyaient un petit peu comme ça, aller faire ci, aller faire ça. Et nous, pour faire bien, et pour donner le change, et pour montrer qu'on était des petits durs, et ben on y allait. Je suis partout où je peux être valorisé. S'il fallait être dans une bande, j'étais dans une bande. S'il fallait se battre tous les mercredis, je le faisais aussi. S'il fallait voler des essuie-glaces, je le fais. Et on déménage à Aubervilliers. Et là vraiment, ça démarre, quoi. Première voiture à 13 ans, déjà. C'est révélateur de pas mal de choses, déjà. Je suis motivé partout à voir très vite. Je vois dans le regard des autres que je suis quelqu'un parce que je fais des choses, même si c'est pas bien. Je vois quand même que j'impressionne pas mal de gens. Ça me suffit largement. Donc je continue, et par la force des choses, on touche un petit peu à tout, on vole des scooters, on vole des vélos, et une fois qu'on est un voleur, on est un voleur.
À partir du moment où on a déménagé de Noisy-le-Grand pour Chelles, là ça a commencé à être un petit peu plus compliqué. Je suis arrivée en milieu sixième. Comme dans tous les collèges, on nous cherche un petit peu. Puis à force de chercher, on trouve, quoi. Et puis après, on rentre dans un jeu. C'est l'image qu'on a voulu donner. Il faut continuer à donner cette image-là. Et qu'il était hors de question que je me laisse marcher dessus, plus ou moins. Ça, c'était quelque chose qui n'était pas possible. Donc il a fallu faire un petit peu en sorte qu'on me laisse tranquille, quoi. J'aimais bien qu'on me prenne pas tête et qu'on me craigne, plus ou moins. J'avais une bande d'amis. On était trois filles et trois garçons, les trois frères, les trois sœurs. Toujours ensemble. On était des emmerdeuses, il faut le dire. On aimait bien chercher la merde. Dans les autres collèges ou au centre commercial, avec des gens de notre âge, bien sûr. On n'allait pas emmerder des petits vieux ou des petites vieilles. On était des bagarreuses. C'était notre façon d'être à ce moment-là. Même entre nous, hein, ça nous arrivait de nous battre entre nous. Donc, en plus d'être violente, ça nous arrivait de voler des choses que nous-mêmes, on avait que nos parents se cassaient le dos pour nous payer. On l'avait, mais il fallait qu'on le vole. Sinon, c'était des portables qu'on avait nous-mêmes dans nos poches, hein, les nôtres, mais il fallait qu'on en ait d'autres.
Vous les revendiez ou c'était juste...
Ah non, pas du tout. Donc c'est illogique, c'est le truc super débile. C'est pour faire, quoi. Tu peux me passer ton téléphone, faut que je téléphone. Mais tu me le rends. Ah ouais, bon, salut. Donc les gardes à vue, ouais. Des fois c'était la bague, des fois c'était ceux qui étaient habillés en uniforme. Que juste pour nous faire chier, nous embarquent, alors qu'ils connaissent notre identité, qu'on est en bas de chez nous, mais qu'on n'a pas notre carte d'identité. Donc à un moment donné, c'était devenu, on va dire, un petit jeu avec eux, on les provoquait. Voilà comment ça se passait.
Donc ma vie de banlieusard, comme on dit, a commencé vraiment à partir du moment où mes parents se sont séparés. Le fait que mon père soit divorcé de ma mère, ça m'a permis à moi, en tant que gars, d'être un peu plus... on va dire traîner un peu plus dehors, foutre un peu plus la merde, on va dire. Alors que quand il y a un père, une autorité masculine, automatiquement, on fait moins de bruit, on essaie de rentrer plus dans les clous, dans les règles de la famille, hein, à savoir ne pas rentrer tard, ne pas faire ses devoirs quand il faut, manger à table comme tout le monde, toutes les choses normales, en fait. Donc j'ai commencé vraiment à me mettre à gauche. J'ai fait pas mal de petites conneries, les conneries qu'on fait généralement en banlieue, hein, des vols... du deal, voilà, toutes ces petites conneries-là. Donc voilà, en gros, donc j'étais un jeune qui aimait bien me battre quand même. Il y a aussi la loi de la rue, la loi de... Donc il a fallu se faire aussi respecter avant tout. Et bah, dans un quartier, pour se faire respecter, ben, il n'y a pas 36 000 choix. Hein. C'est soit on se bat, soit on devient victime. Se faire respecter aussi, ça engendre le fait d'être dans un groupe aussi. Parce que en groupe, on se sent plus fort que tout seul. Je me considérais dans une famille, j'ai envie de dire, ouais, une famille. Une famille où on est dans la même merde, j'ai envie de dire. On vit tous dans le même quartier, on a tous les mêmes problématiques, on a tous du mal à payer nos loyers, on a tous du mal à sortir du quartier, on a tous du mal à trouver de l'emploi, à financer nos projets. Donc ouais, non, j'ai envie de dire, tous dans une même merde. Pas une bande, team, équipe, vu qu'on n'avait rien, et ben vu qu'on fait rien pour nous, ben on va aller chercher nous-mêmes en fait. On avait tout ce qu'on voulait, mais j'ai envie de dire que c'était pas assez en fait. Par rapport à ben, tout ce qu'on nous véhicule aujourd'hui, tout ce qu'on nous... Même avant, tout ce qu'on nous véhicule à travers la télévision, les nouvelles marques, les nouvelles sapes, les nouveaux trucs, les nouveaux téléphones. On avait l'impression que c'était pour nous languir, nous donner envie en fait. Mais sans qu'on puisse l'avoir en fait. Donc automatiquement, ben, on essayait d'aller chercher par nos propres moyens.
Comment ça se passe avec la police à ce moment-là?
Ben, à ce moment-là, avec la police, ça se passe pas très bien. Moi, je me considérais plus dans le côté malin. Donc voilà, j'ai eu affaire à la police... certaines fois, mais j'ai un père qui travaillait dans la police municipale, donc c'est vrai que depuis très longtemps, donc j'avais doublement pas envie de me faire arrêter, quoi. J'avais plus peur de mon père qu'autre chose, en fait. Faut savoir qu'on est, voilà, on est l'un des seuls grands quartiers de la ville, donc automatiquement, le quartier, on va dire qu'il était classé zone rouge, quoi, en fait. Donc automatiquement, tous ceux qui sortaient du quartier, automatiquement, il fallait les contrôler, et même plusieurs fois, j'ai déjà eu plusieurs problèmes comme ça, en disant que c'est pas parce que je sors de ce quartier qu'il faut à chaque fois me contrôler, en fait. Venant d'un quartier, automatiquement, on a l'impression d'être toujours stigmatisé, d'être toujours contrôlé, peu importe ce qu'on fait en fait. Donc au final, qu'on fasse ou qu'on fasse pas, ben, on sera toujours mis dans le même sac. Donc c'est pour ça qu'au début, je me disais avant, ben, plutôt que de pas faire, ben, autant faire.
On peut analyser la délinquance, les phénomènes de délinquance, de manière massive à travers, en utilisant une pyramide des âges.
Marwan Mohamed, sociologue.
Il y a un rapport entre le temps, l'âge et les comportements sociaux qui est très important, notamment pour les comportements juvéniles. Dans tous les pays où il y a un système judiciaire, un système statistique relativement fiable, on voit que la délinquance émerge, les premiers actes émergent vers 12-13 ans. Et puis, il monte en puissance à partir de 15 ans, jusqu'au tournant de la vingtaine. Il stagne à un niveau élevé pour décroître à partir et après 25 ans. Ce qui fait dire à un certain nombre de mes collègues que, effectivement, le premier facteur de sortie de délinquance, c'est l'âge, c'est-à-dire la maturation qui va derrière. Dans le contexte français, si on prend le cadre des bandes, elles se forment généralement lors des premières années du collège. Et si j'ai même envie d'être très précis en analysant les parcours, entre la fin du deuxième trimestre de sixième et les deuxièmes trimestres de quatrième. Quand on prend une bande, tous les jeunes dedans ne sont pas engagés de la même manière. Vous avez des jeunes dans une bande qui vont faire un certain nombre d'actes, mais qui refuseront d'autres actes. Par exemple, certains qui ne se rendent pas disponibles pour un vol à main armée, mais qui se rendent disponibles pour les affrontements entre bandes, pour un vol de scooter ou pour revendre un petit peu de shit à leur réseau personnel. Le niveau d'emprise de la famille, de la société, des institutions diffère d'un adolescent à un autre ou d'une adolescente à une autre. On a des jeunes pour lesquels il y a des actes qui sont commis, mais il y a quand même une certaine légitimité familiale à intervenir et à poser le cadre. Et du coup, ces jeunes-là s'imposent des limites eux-mêmes. Et quand on discute avec eux, c'est très clair. Moi, si un jour je risque la prison, j'arrête. Pourquoi ? Mais parce que il y a un niveau d'emprise et il y a des possibilités sociales pour un certain nombre d'adolescents qui réduisent l'intérêt d'une carrière délinquante longue et qui passerait par une phase judiciaire, carcérale, etc. Alors que pour d'autres, qui sont dans une carrière sans projection, sans alternative, qui sont très aliénés à la rue et à ses rétributions, pour eux, la confrontation à l'institution judiciaire ou à l'enfermement auront moins d'effet au départ. Et c'est là qu'on voit des premières bifurcations, des premières séparations dans la confrontation à la justice et notamment dans la confrontation à la prison ou au risque prison.
Je me retrouve à être dans plein de bandes différentes et avec plein de copains différents et qui font tous plein de choses très différentes et qui aspirent tous à voler beaucoup de choses. Et du coup, j'augmente mes chances éventuellement d'avoir affaire à la justice. Et c'est ce qui m'arrive. Alors, je touche un peu à tout et je fais un peu n'importe quoi. Et je vais pas mal en garde à vue, ouais, pour pas mal de choses. À un moment donné, au commissariat, il commence à s'inquiéter vraiment. Alors, il y en a un ou deux qui me regardent et qui disent « Mais qu'est-ce qu'on va faire de lui ? C'est pas possible. » Ils ont un peu l'âme, notamment un policier qui s'appelait Eric, je me souviens très bien, qui venait dans les écoles faire des interventions VTT. Et ils ont fait des signalements dû à la répétition des vols commis, etc. Donc évidemment, il y a des mesures éducatives qui sont prises par le juge des enfants. Et on nomme un éducateur de la PJJ, Protection Judiciaire de la Jeunesse. Et ce monsieur, il essaie de tout faire pour créer quelque chose avec moi. Il sent que c'est possible. Et lui, voilà, il anticipe le projet professionnel. Et donc il commence à me poser des questions sur ce que je voudrais faire ou pas. Mais moi, je sais vraiment pas quoi faire. Alors la plupart des gens autour regarde un peu les documents stipulant les délits, etc. Et ils voient qu'il y a pas mal d'histoires de voitures. Alors ils disent, on va l'envoyer en mécanique celui-là, peut-être, ou en carrosserie. Sauf que moi, j'ai détesté ça. Et j'aimais bien démonter les voitures, mais pour moi, pas pour travailler. Et donc, voilà, cet éducateur, il essaie de travailler avec moi, mais ça tient pas. La rue, ça a été plus fort. Un jour où c'était pas prévu, j'avais pas du tout envie d'y aller. Le tribunal pour enfants, je suis convoqué pour une série d'infractions, pas bien méchantes, mais je suis convoqué quand même, donc il faut y aller. Je suis représenté par un avocat d'office, avec un accent pas possible, et je me dis, c'est lui qui va m'envoyer au trou, lui. Je vais me défendre tout seul, parce que ça a pas raté. Hein. Et ce jour-là, je suis condamné à 3 mois d'emprisonnement pour, je pense, l'ensemble de mon œuvre, parce que c'est trop, et qu'à un moment donné, ils ont tout épuisé. Toutes les mesures éducatives, ils ont tout essayé. On a essayé les placements en foyer, ça n'a pas marché, je me sauve à chaque fois. Les éducateurs, tout ce que vous voulez, ça n'a pas suffi. pile poil 16 ans, ils en peuvent plus de moi, ils se disent on va pas attendre 18 ans. Il est un peu en avance, donc on va aussi prendre un peu d'avance. Et j'atterris à Fleury déjà, c'est une maison d'arrêt qui est très... c'est très impressionnant. Très sale, très froid, c'était immense. J'atterris première nuit dans ma cellule. Il y a un surveillant qui ouvre ma cellule et qui me dit Monsieur Amar, vous passez au prétoire à midi, vous avez jeté une canette. Première nuit, je viens d'arriver. Alors moi je suis dans mon lit, je dors, je comprends rien ce qu'il me raconte. Puis il me dit peut-être que j'ai un parloir ou peut-être que l'avocat est venu me parler. Et il revient à midi, persuadé que je suis l'auteur d'un fait que j'ai pas commis en fait. Il me reproche d'avoir jeté une canette par la fenêtre. Alors que je viens d'arriver, j'ai même pas un radis dans les poches pour acheter un sucre. Et moi je dis non, c'est pas moi. Et je vois les gens en face de moi qui me regardent, bien sûr, c'est pas toi. Et on me condamne à l'intérieur de la prison, on me condamne à 20 jours de travaux forcés en fait. Et je dois ramasser les papiers à l'extérieur. Et je suis là, je rumine mon malheur. Je ramasse les papiers. Chaque papier que je ramasse, j'ai l'impression que c'est un coup de poignard. Peut-être les deux premières semaines, elles font réfléchir. Et puis après, vous prenez un espèce de rythme. Et puis ceux qui sont autour de vous vous font comprendre que 3 mois, c'est une colonie de vacances et que c'est pas bien méchant. Sauf que je suis sorti en ayant rencontré plein de gars avec qui j'ai vraiment bien sympathisé, qui avaient à peu près les mêmes peines que moi. Et du coup, on se retrouve dehors. Et là, c'est un cran au-dessus.
À quel âge vous retrouvez devant un juge des enfants ?
14 ans. Pour des vols, des violences. Enfin, en général, surtout, c'est parce que c'était en réunion. C'est pour ça que ça les inquiète. Quand il y a le mot « en réunion », c'est « waouh ». Ça leur fait peur. Cette juge-là était vraiment très bien. Dans le sens, c'était plus de l'inquiétude qu'elle avait, qu'elle ne voulait pas punir pour punir. C'était vraiment un juge pour enfants. Là, ça arrivait qu'on la voit 2 fois par semaine. Et elle en avait marre. Voilà, encore toi, t'en as pas marre, moi j'en ai ras-le-bol de te voir. Puis il y avait la menace du foyer, chose qui pour moi était impossible à l'époque, c'était comme la prison. Et elle décide à un moment donné, par ras-le-bol et surtout dans le sens où cette fois-ci j'étais accusée à tort, et comme elle savait que j'étais pas une menteuse, elle m'a dit « bah écoute, pour te protéger, je vais te placer comme ça ». Ça pourra pas être toi parce que tu seras à tel endroit et on pourra prouver que c'est pas toi. Donc j'ai été placée pour normalement une durée de 15 jours. C'est pas passé tout à fait comme ça. Je suis restée jusqu'à mes 18 ans à la PJJ, donc c'est pas passé pareil. J'étais à Nogent-sur-Marne, au foyer de Nogent-sur-Marne, qui d'extérieur ressemble à une magnifique prison. Tout proche de chez moi, donc je me dis dans ma tête tout proche de mes copines. Problème, c'est interdiction de se voir à moins de tant de trucs. Donc les copines, on oublie. Mais bon, dans l'ensemble, c'est les gens qui à l'intérieur, ils sont tellement sympas, ils sont là vraiment pour nous. Donc on voit vite autrement que c'est pas une prison quoi. C'est un endroit où il y a des règles. C'est pas comme la maison, il y a des règles. À telle heure tu dois être là et puis à telle heure tu manges. C'est pas comme chez toi où tu fais ce que tu veux. C'est quand même une punition, je suis coupée du monde, je n'ai pas mon téléphone, je n'ai rien du tout, c'est quelque chose d'assez compliqué. Mais dans l'ensemble, je me dis, quand même, ils sont bien sympas, essayer de rigoler avec moi, à me demander comment je vais. Enfin, oui, ils sont sympas, mais bon, pas plus que ça à ce moment-là. On est plutôt dans le sens, 15 jours, ça a passé vite et je me tire. On va faire la gentille, comme ça on va partir.
Après les 15-16 ans, donc en fait, besoin d'argent. Besoin d'argent. Donc, comme on a besoin d'argent, on va tout de suite vers le truc qui rapporte le plus vite de l'argent. C'est le deal, c'est toutes ces petites conneries-là. Et, bon, les petites conneries. Encore une fois, je répète, petites conneries, parce qu'il y en a qui le faisaient à une plus grande échelle. Voilà. Après, ouais, c'est la fumette, le cannabis, le deal du cannabis, tout ça, en fait. Tout ce qu'on retrouve principalement dans les quartiers, en fait. Chose qui ramène facilement de l'argent et que où on peut se payer ce qu'on a envie de se payer sans pour autant aller voler. C'est vrai que c'est une période où tout de suite on fait moins de bêtises parce qu'on a plus intérêt à pas se faire attraper ou pas se faire voir dans ce qu'on fait. Donc ouais, automatiquement on est un peu plus en retrait, on fait plus attention. J'ai jamais eu affaire à la police parce que s'ils devaient se mettre sur quelqu'un, c'était pas sur moi qu'ils allaient se mettre, en fait.
C'est un cran au-dessus parce qu'on est, plus dans les petits copains du quartier, en fait. On est avec les gens qui ont fait de la tôle et qui sont un peu de votre profil à vous, qui franchissent le cap et qui n'ont pas peur. Alors moi, imaginez-vous, je me retrouve avec une dizaine comme ça, c'est la cata. On n'a pas peur de grand-chose, franchement. On est, et du coup, on réfléchit à plus gros. Pour tout petit voyou qui commence par tous les petits larcins, etc., finir par mettre ce qu'on appelle la cagoule, en fait, à l'époque. Donc nous, on s'est inspiré du gang des postiches à l'époque. On s'est dit que les banques, c'était pas mal. On avait un regard comme ça très... On voulait pas, si vous voulez... Dès qu'on vandalisait une voiture, on regardait s'ils étaient assurés. On s'interdisait total de prendre le sac à main de personne dans les villes comme celle où on était, parce qu'on partait du principe où les gens ils n'avaient pas d'argent ou c'était compliqué pour eux. Donc on prenait notre scooter et on allait devant chez Louis Vuitton, les grands hôtels à Paris. Et c'est vrai, on faisait ça. Et on attendait les touristes à la sortie des restaurants. On s'attaquait qu'à ces gens-là. Et pour le choix des banques, c'était un peu ça aussi. On s'est dit, on va pas aller faire des trucs, des pharmacies, des choses comme ça. Les banques, c'est bien. Ça représente. Il y avait un truc qui symbolisait un peu l'État. Il y avait quelque chose de. Comme à l'époque, on était dans la défiance et la haine de l'institution. Et pour nous, une banque, ça représentait l'État, ça représentait l'institution. Donc c'est tout naturellement qu'on s'est dirigé vers les banques. En général, vous prenez toujours une certaine somme. Et c'est ça qui nous confortait. Bon, à l'époque, c'était en francs. On sortait à pas moins de 50 000 francs, en fait. Donc on se déguisait avant d'y aller. On mettait des barbes, des trucs, fallait voir ça, les scènes, c'était... Même nous, quand on se regardait, on n'importe quoi, on était... et une fois qu'on rentrait, c'était un mix de Robin des Bois et de voyous méchants et pas méchants en même temps, parce qu'on rentrait avec des bouteilles d'eau, alors les femmes enceintes à gauche, les gens qui sont cardiaques à droite, enfin voilà, c'est des trucs... Enfin, ça change rien au fait, hein. C'est quelque chose qui était très grave, il fallait pas le faire. Et on était deux, ça dure 3 minutes. On se levait à 9h, à 9h17, on était à la maison. Aller-retour, on avait tout fini, partagé, rangé les motos, et on était déjà dans nos lits. Et on est des gros flambeurs, mais discrets en même temps, c'est-à-dire que, enfin, c'est contradictoire. On sait qu'il faut pas flamber et pas claquer tout l'argent qu'on a dans tout ce qui brille, mais on va le faire quand même. Je sais plus combien de voitures on a pu acheter, des gros cylindrés en plus. Pas mal de BMW cabriolets, des Golf VR6, enfin je contextualise de l'époque, hein. Des Mercedes cabriolets, des choses, voilà, des voitures qui laissaient pas indifférents les gens ne comprenaient pas. Quand ils nous voyaient, les gens ne comprenaient pas. À l'époque, on n'avait même pas 18 ans, donc on se croit les rois du monde. On se croit vraiment intouchable. On voyage 8 fois par an. On va en Thaïlande, on va au Brésil, on va aux États-Unis. Et on arrive à y aller tout ça sans être majeur. Il faut une autorisation parentale. Moi, j'arrive jamais à l'avoir, mais j'arrive toujours à partir. Un train de vie vraiment qui veut rien dire. C'est pour des gamins de cet âge-là, c'est. Les gens vont à l'école, ils préparent leur avenir, et nous, on prépare notre détention finalement. Mais on le sait pas encore à ce moment-là.
Passe ta majorité.
Ouais.
Est-ce que ça change quelque chose?
Ouais, complètement, parce qu'en fait, j'ai eu aussi moi la chance que mon père travaillait dans une mairie. Donc automatiquement, il m'a fait travailler aussi les emplois saisonniers, pas mal de choses. Donc j'ai enchaîné plusieurs boulots. Alors là, j'ai commencé en fait à faire. Au début, j'étais gardien dans les gymnases. J'ai fait les espaces verts, j'ai fait la voirie. J'ai balayé même devant les lycées. Avec en plein été, avec une grosse capuche et une écharpe pour cacher mon visage pour pas qu'on me reconnaisse. Il y a aussi cet esprit-là. Quand il y avait les CN sortaient, en fait, je me tournais, je me balayais comme ça, et de dos, en fait. Et je voyais à chaque fois l'image que me disait ma prof. Tu veux finir comment plus tard? Balayeur, c'est ça? Et en fait, je voyais cette image-là qui revenait sans arrêt. Et jusqu'à un jour, je me suis dit, c'est pas du tout le métier que je vais faire. Pour cumuler, en fait, pour avoir plus d'argent, je faisais aussi les marchés le week-end. Après, j'ai fait Reaper. Donc, Reaper, c'est les poubelles. Camion poubelle, c'était bien parce que je finissais tôt le matin. On commençait tôt à 5h du mat, on finissait à 10h, 10h30. Donc du coup, les gens n'avaient pas l'occasion de me voir. C'est aussi ça aussi le boulot qu'on se dit aussi. On prend aussi le boulot en fonction des autres. C'est ça qui est fou quand même. On se dit, ouais, mais ce boulot-là, s'il me voit dedans, je vais m'afficher. Voilà, c'est limite, c'est plus l'estime de soi à travers son emploi que sa propre vie en fait et d'avancer en fait. Et du coup, je l'ai fait un petit peu et après j'ai arrêté. C'est ce qui m'a permis aussi de m'ouvrir aussi. Voir ce qui se passe de l'autre côté de mon quartier aussi. Et tout de suite, ouais, j'ai commencé à avoir un petit déclic, quoi. En me disant, ben, en fait, le boulot, c'est pas si mauvais que ça, en fait. C'est bien de bosser, de communiquer, d'échanger, de voir du monde, voir des gens différents, en fait, de ce que j'ai l'habitude de voir dans mon quartier. Donc, c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à me dire, ma vie dans le quartier, c'est bien, mais en vérité, le quartier, je l'aime, je l'apprécie à petite dose, en fait. Plus j'avance et plus je l'apprécie à petite dose, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que les jeunes, pour qu'ils puissent arrêter de faire des conneries, de dealer, de voler, de tout ça, il faut leur donner la chance d'eux, en fait. Moi, la chance, on ne me l'a pas donnée, c'est mon père qui m'a orienté vers cet emploi-là, en fait. Mais en même temps, s'il ne m'aurait pas imposé, peut-être que je serais encore faire du business, en fait, dans le quartier. C'est aussi ça, le truc. Il ne faut pas croire, hein. Quand on vit dans un quartier, on n'est que dans le quartier. Ça veut dire qu'en gros, le quartier, c'est un village, c'est une ville, c'est un pays, en fait. C'est ça qu'il faut se dire. Et dès qu'on met un peu de côté du quartier, on n'est plus chez nous, en fait. On est jugé, on est regardé. Et en plus, on le décuple. Parce qu'on devient parano, en fait. Toute personne nous regarde, en fait. C'est ouais, pourquoi il me regarde, lui? C'est oh là là, mais on n'a qu'une envie, c'est de retourner vite dans notre quartier, en fait. Donc, en fait, j'ai envie de dire, le système, des fois, il est tellement bien fait qu'il nous empêche d'avancer, en fait. C'est fou, hein, mais ouais, c'est, il nous pousse à rester dans ton quartier. Regarde, on va se construire ça dans ton quartier, une poste, un truc. On va te construire un tabac, on va te construire un truc pour faire les courses, on va te construire ça. Mais on construit ça pour quoi, au final? Pour qu'il reste là, en vérité. On est là pour mourir ici, en fait.
Et est-ce qu'il y a eu d'autres déclics?
Bien sûr. Les déclics, en fait, ça a été toutes les personnes que j'ai rencontrées, mais aussi le sport. Je pense que c'est la boxe directe qui m'a permis, en fait, de m'en sortir. À travers ma maigre expérience de travail, j'ai envie de dire, je me suis dit, ben, en fait, tout ça, c'est pas ce qui me ressemble comme boulot. Donc, pourquoi pas allier le sport avec mon métier, en fait? Et du coup, de fil en aiguille, ben, j'ai commencé à regarder ce qui se passait autour du sport. Un jour, j'étais chez moi. Et au lieu de faire voilà, comme je faisais au quotidien, sortir et rester dehors, je me suis allongé dans mon lit et j'ai commencé à réfléchir. Et d'un coup, j'ai plein de larmes qui ont coulé. Alors là, je pourrais jamais vous expliquer pourquoi, en fait. Mais je pense que c'est aussi lié à tous les problèmes voilà, qu'on peut retrouver. Les durs à payer le loyer, pas de travail, pas de situation, des parents divorcés. Donc du coup, je me suis dit ce jour-là, en fait, qu'est-ce que je vais réellement faire de ma vie, en fait. Et c'est ce jour-là, en fait, que mon déclic s'est fait. J'ai pris mon courage à deux mains et je suis parti, en fait, rechercher du travail, mais dans le sport. Donc, j'étais à la DDJS, l'ancienne DDCS, pour voir ce qu'ils pouvaient proposer en termes de projets sportifs. Soit par le foot, soit par le multisport. Et bien, le premier, j'étais pris en multisport dans le test de sélection, donc j'ai commencé par celui-ci.
Pour sortir de la délinquance, il faut bien avoir à l'idée qu'il y a deux processus qui vont ensemble, c'est-à-dire un processus d'ouverture sociale. Est-ce que j'ai une ouverture quelque part? Est-ce que j'ai une alternative qui se dessine? Une formation, un emploi, un couple ou la religion? Enfin bref, est-ce qu'il y a une alternative sur le marché pour moi? Deuxième ressort, c'est l'usure. Et la prison, l'expérience judiciaire ou carcérale, mais parce qu'elle fait, elle a des effets sur la famille, sur l'environnement, sur la réputation, sur le casier judiciaire, sur l'avenir. Il y a beaucoup d'impact, hein, de conséquences à une expérience judiciaire, une prise en charge pénale. Du coup, ça fait partie de l'usure. La plupart des jeunes, généralement, quand ils sont en phase d'initiative et quand ça prend, ils font les choses de manière progressive. Si on prend des jeunes qui sont impliqués dans le trafic de stupes et qui veulent s'en sortir, ils vont y aller doucement, c'est-à-dire il y a une période où ils ont une posture un peu hybride. Eux disent qu'ils prennent beaucoup moins de risques à vendre dans la rue, ils préfèrent vendre discrètement, de garder un peu d'argent de poche, tout en étant en situation de formation ou d'emploi. Ils ont trois choses à perdre fondamentalement quand ils quittent la rue. Un statut public, une réputation, du prestige et du pouvoir. Une existence sociale. Ils peuvent perdre du pouvoir d'achat. Si on prend ceux qui sont impliqués à un niveau quand même important dans le trafic de stupéfiants. Et puis, ils perdent aussi du collectif. Et puis, de la confiance. C'est-à-dire que la rue, elle a beau être rugueuse, elle l'est, mais c'est un cadre sécurisant parce qu'il est maîtrisé. Aller chercher un emploi, être en situation d'emploi, on ne se rend pas compte à quel point, pour des jeunes qui n'ont connu que la rue et qui ont une crainte, une méconnaissance de l'extérieur, c'est une prise de risque. L'échec scolaire les a considérablement fragilisés psychologiquement. Certains lâchent leur formation, pas parce qu'ils n'ont pas envie de la faire, mais parce qu'ils n'arrivent pas à gérer, ils se sentent en situation d'infériorité, ils ont peur de l'humiliation, de l'échec. Et donc on a ce gap qui est difficile à passer.
De trop,
Ouais, un matin, on se réveille, on a pour projet de partir au ski dans la semaine. On a un petit peu de sous, mais on le dépense très vite, très très vite. On claque vraiment, vraiment très vite notre argent. On est assez généreux. On fait profiter pas mal. Et on se dit, on va en faire une ou deux, ça va nous faire nos vacances. Et comme d'habitude, quoi. Sauf que le comme d'habitude, il se passe pas très bien. On va dans une agence bancaire, on rentre et dans la précipitation, la personne qui est à la caisse remplit les sacs et elle met une liasse piégée dans le... C'est une espèce de coupure de 500 francs de l'époque. Ils mettaient des liasses piégées qui sont... Enfin, c'est des espèces d'échantillons de parfum. Et au contact, dès que ces deux produits qui se mélangent, ça explose en fait et ça tache les billets. Et du coup, on perd la moitié de l'argent. On prend 80 000 francs de l'époque et à peu près 38 000, on les met à la machine. Mais ils sortent un peu roses et avec une texture un peu... qui claque un peu trop. Mais bon, ça passe. On s'en sert comme argent de poche. Et là, il se passe quelque chose de très curieux sur la ville d'Aubervilliers, c'est que je me fais plus contrôler par personne. Aucun policier. Ils me connaissent tous. Je roule comme si j'étais titulaire du permis, comme si c'était normal que je roule dans des bagnoles à 200 000 francs. Tout va bien. Et là, je me pose vraiment des questions. Je me dis, mais pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Et en fait, oui, il y avait une autre brigade sur mon dos et il s'était mis en relation avec le commissaire de Aubervilliers. Voilà, tout simplement, il leur avait dit... On a logé un tel, il faut le laisser tranquille, surtout on va se le faire dans un mois. Donc on n'y touche pas. Vous touchez ni aux voitures, ni... C'est exactement ce qu'ils ont fait. J'étais tranquille pendant encore un mois. Tout juste 18 ans, la porte elle tombe. Ils cassent la porte, un gros boom. Ils viennent bien organiser, hein. Ils bouclent tout le quartier. Quand on a affaire à des gens qui utilisent des armes, on ne sait jamais. On ne peut pas savoir ce qu'ils ont sous l'oreiller ou sous leur lit. Quand bien même ils nous connaissent bien, ils savent qu'on est des gamins, quoi. Ça enlève rien. Enfin, ils ont l'artillerie lourde, quoi. Les cagoules et tout ça, les gilets pare-balles, les policiers de partout. Et j'ai même pas le temps de me retourner, je sens un canon là sur ma tête. Il me demande mon identité, je lui réponds. Il me dit qu'à partir de ce moment-là, je suis en garde à vue. Et là, j'ai un policier de la BAC qui me connaît bien. Il me regarde, il me dit respire bien l'air hein, d'Aubervilliers. Parce que tu vas pas le ressentir de sitôt.
Comment s'organise la vie dans ce foyer ? Est-ce que vous avez un éduc que vous aimez particulièrement ? Est-ce que vous avez une nouvelle bande de copines ?
Dans les foyers PJJ, les bandes de copines, ça n'existe pas. On est en minorité. Donc, moi, à ce moment-là, ça me dérange pas. Je m'entends très bien avec les garçons. Donc, il n'y a pas de souci. Comme on dit avec ma meilleure amie que j'ai rencontrée là-bas, c'est les meilleurs moments de notre vie. C'est hallucinant, quoi, de se dire ça, que c'est au foyer nos meilleurs moments de notre vie, au foyer. On a rigolé, j'avais des éducateurs que j'appréciais beaucoup. Ils m'appelaient Moineau, parce que la dame qui m'avait ramenée, elle disait, c'est un tout petit Moineau, elle est perdue, il faut la rassurer. Donc ils m'appelaient tout le temps Moineau, et puis on se posait souvent dehors, devant le foyer, à fumer des clopes et à discuter, à savoir un petit peu comment je voyais les choses, de comment j'étais.
Est-ce que toutes les violences s'arrêtent à ce moment-là ?
Non, il y a certaines disputes avec toujours rien de méchant. Hein. C'est des réflexes, c'est des choses qu'on garde assez longtemps. Donc ouais, ça m'est arrivé plus d'une fois de me battre. Mais jamais ça a dépassé les bornes. Non. Parce que la nouvelle personne que je fréquente, elle a d'autres problèmes. Elle n'est pas là pour les mêmes choses. Donc dans les foyers, soit on peut s'entraider, ou soit on peut se tirer vers le bas. Et bah disons qu'on a eu la chance de se rencontrer et de se tirer vers le haut. Ça veut pas dire qu'on était parfaite, mais il y avait plus d'histoire de justice. On n'était pas tout le temps là au foyer, c'est sûr, mais on n'était pas au commissariat. Ou quand on était au commissariat, c'est parce qu'on était dit en fugue. On nous récupérait comme ça. Donc c'est ce qu'il y a de bien dans les foyers, c'est le fait qu'on puisse se rencontrer de toute personne, de tout horizon, et qu'on n'a pas les mêmes problèmes. Et c'est là que parfois, en écoutant les problèmes des autres, on se dit « Ah ouais, elle a des vrais problèmes. » Moi, j'en ai pas. Je me suis créé toute la merde que j'ai derrière moi. C'est moi qui l'ai créée. Alors que elle, la pauvre, elle est née dedans, quoi. Enfin, la pauvre. Je parle en général.
À 16 ans, qu'est-ce qui se passe ?
Bah, à 16 ans, je suis trop vieille pour rester au foyer de nos gens. Donc du coup, grâce, on va dire, à la PJJ, j'ai eu mon autonomie, donc mon studio. On nous paye l'électricité, on nous donne de l'argent pour nos courses, on nous donne de l'argent pour acheter nos vêtements, on nous paye notre loyer. Enfin, c'est magnifique, quoi. Tout ce qu'on a à faire, c'est aller à l'école, Et le reste, on fait ce qu'on veut, quoi. On va se coucher quand on veut, on fait ce qu'on veut. Donc, je m'installe, on va dire, assez rapidement, non officiel, hein, puisqu'on n'a pas le droit, avec le père de mon fils. Et on va dire que les choses s'enchaînent assez rapidement, vu qu'on est tout le temps ensemble. Donc oui, à 17 ans, je suis enceinte. On décide de garder cet enfant. Ma mère me dit, bon, je veux bien te prendre. Toi, le mec et le gosse. Donc du coup, je suis restée 3 ans avec mon fils et ma mère.
Je suis incarcéré à Villepinte, en fait. Villepinte, et j'atterris dans un bâtiment. Vous savez, quand vous êtes incarcéré, ils vous incarcèrent en fonction de votre âge, de votre profil. Et donc j'atterris avec des gamins qui me ressemblent et qui font à peu près les mêmes trucs que moi. Donc c'est une espèce de bâtiment avec des cellules qui ressemblent à autant de gardes à vue, en fait. Les gens qui sont dans ces cellules-là sont dans l'esprit garde à vue. On pisse dans sa cellule, on casse les portes, on brûle les matelas toute la journée, on s'insulte, on crie, on se bagarre avec les surveillants tout le temps. C'était vraiment la jungle, hein, dans le bâtiment où j'étais. Et je me dis, je vois l'environnement qui est autour de moi et j'aime pas ça, en fait. Et moi, je suis là, je me dis, mais comment je vais sortir de ce truc-là? Et donc, je demande à changer de bâtiment. Et j'atterris dans un bâtiment, le bâtiment C, qui à l'époque regroupait toutes les grosses peines, tous les gars qui avaient pris des peines pas possibles. Alors j'arrive dans ce bâtiment, je comprends rien à ce qui m'arrive. C'est une maison de retraite. Toutes les cellules sont ouvertes. Que des vieux. Les surveillants sont souriants. Bonjour. C'est à la limite si on me serre pas la main. Alors ça me vraiment déstabilisant. Et en fait, ouais, et voilà, c'était des gars qui étaient là pour des grosses affaires, mais c'était des anciens, quoi. C'était des gars de la génération à Francis le Belge, des gens comme ça, quoi. Vraiment des vrais gens du milieu. Et moi, je les connaissais pas, ces gens-là. Et du coup, j'ai sympathisé avec d'autres personnes. Qui étaient des voyous, certes, mais des voyous intelligents. J'ai sympathisé avec un dénommé GG, on va l'appeler GG. Et à force de marcher avec lui, on a discuté, et il arrive à me convaincre, en fait. Ça fait un déclic parce qu'il me protège pas mal, en fait. Il envoie le surveillant à ma cellule me forcer à me réveiller le matin pour aller à l'école. Je dis, mais je savais pas que j'étais inscrit à l'école, moi. Et le surveillant, comme ça, il me dit, c'est GG qui l'a dit, lève-toi. Et du coup, par la force des choses, il m'a mis le pied à l'étrier et je me suis découvert... si vous voulez, c'était un autre regard là-bas. Il y avait des profs qui avaient une autre méthode, une autre pédagogie. Et du coup, on m'a valorisé. Et finalement, je me suis rendu compte que fallait juste un peu me valoriser dans quelque chose et je pouvais... ce qui m'est arrivé dans tout ce que je faisais en termes de vol, de casse, etc., c'est parce qu'on me valorisait pas mal et pas assez de l'autre côté. Je me pose la question de savoir si on avait réussi à me valoriser dans autre chose... Comment ça se serait passé?
Donc j'ai continué ma formation, je continuais mes conneries encore, mes petites conneries à gauche à droite, mais j'étais toujours en quartier. Sauf que la différence avec les autres, en fait, c'est que moi, ma journée, elle était occupée, en fait, elle était pleine. Donc oui, le soir, je rentrais, je racontais mon expérience, tout ça, et c'est vrai que mes potes étaient un peu curieux de savoir qu'est-ce que je faisais, donc moi, ça me valorisait de leur raconter un peu ce que j'ai fait, autre que ce qu'on fait au quotidien dans le quartier, en fait. Jusqu'au jour où j'ai mon diplôme, j'ai dit, les mecs, salut, je vais travailler maintenant. Et ça a été mon salut, en fait, mon salut du quartier, à me mettre dans le chemin du travail, en fait.
T'as trouvé ça difficile de lâcher le business ou pas?
Franchement, c'est la chose la plus difficile qui m'arrive, en fait. Parce qu'on se dit, ben, on a un pécule et on se retrouve avec un salaire de 1200, 1300 euros au mois, quoi. Et on se dit, ben... En début de mois, je suis déjà à découvert, quoi, en fait. Je dois déjà de l'argent à la banque, quoi, en fait. C'est limite. Avant, tu devais pas d'argent à qui que ce soit. Maintenant, tu te vois de l'argent alors que tu travailles, quoi. C'est un peu ce côté-là qui vient un peu dur.
Il y a un monsieur qui s'appelle Mohamed Belkacemi, directeur technique régional de la Fédération française de football. Et lui, il est très investi dans la vie des quartiers, et notamment dans le milieu carcéral. Donc, il est venu à Villepinte. Donc, il nous propose, pour les volontaires, de passer un premier niveau de qualification dans l'encadrement sportif. L'animateur football de quartier. Moi, je suis super volontaire, je dis je veux le faire. Et je lui dis, mais je suis en prison. Est-ce que tu crois que c'est possible après de faire, par exemple, animateur sportif? Il me dit, tu peux même faire éducateur sportif. Tu peux même faire préparateur physique. Je lui dis, mais j'ai un casier. Il me dit, ça, on verra plus tard. Et du coup, je passe la formation avec lui. Et on obtient quasiment tous le diplôme. Donc, c'est mon premier diplôme que j'ai. Et je suis super content. Je le montre à tout le monde, aux surveillants et tout. Et du coup, ça m'a lancé. Je me suis inscrit au bac, à la maison d'arrêt. Et là, je découvre un petit peu ce que c'est qu'ouvrir un livre. Et là, il me dit, il y a quelque chose qui s'est passé dans ton esprit, c'est bien, mais tout seul, tu ne vas pas y arriver. Donc j'écris à la juge des enfants, parce qu'il faut d'abord, pour que un éducateur soit détaché, il faut qu'un juge le décide. Donc j'écris au juge, et du coup, il me dit, bah, écoute, on va... Il n'y a pas de raison de ne pas accéder. Et donc, on nomme une autre éducatrice, Sophie Cartier-Bresson. Et elle vient me voir en maison d'arrêt, en fait. Et elle me dit, mais tu veux faire quoi? Animateur, éducateur, qu'est-ce que tu veux faire? Je dis, bah, je sais pas. Éducateur? C'était presque un gros mot. Vraiment. Déjà, le mot éducateur, j'arrivais pas à le sortir parce que c'était un contresens, en fait. Ça marchait pas. Moi qui étais toujours... j'étais toujours à subir les mesures éducatives, les éducateurs. Déjà, le mot éducateur, c'était un mot qui... Moi, devenir éducateur, c'était très bizarre. Elle me dit, mais tu pouvais pas le dire avant. Il y a plein de trucs qui peuvent se faire. Et c'est là que ça m'a... Ouais, ça m'a propulsé, en fait.
Un jour, il y a eu un monsieur qui est venu me voir. Qui m'a dit, tu sais... Les gens disent que t'es un délinquant parce que quand vous êtes dans les quartiers, vous êtes des délinquants en fait. Vous êtes là à faire du deal, à faire des conneries, tout ça. Mais en fait, en tant que délinquant, t'as des compétences en fait. Et si t'arrives à mettre tes compétences de délinquant dans le milieu professionnel, tu peux être un vrai chef d'entreprise en fait. Mais ça ne tient qu'à toi en fait. Chose que j'ai fait en fait. J'ai rassemblé tout ce que j'avais, j'ai retiré tout le mauvais, j'ai gardé le bon et je me suis extériorisé pour apprendre ce qui se passait de l'autre côté de mon quartier. Et je suis retourné dans mon quartier. Là, cette fois-ci, pour sortir avec les jeunes de mon quartier, avec les projets. Quand je vois les jeunes en bas du quartier, tout ça, ça me fait penser, ouais, à ma jeunesse. Qu'est-ce que vous faites, les gars? Vous bossez pas, vous n'êtes pas à l'école, vous faites rien. Et les jeunes, ils me connaissent, tous ils me connaissent. Donc ils savent très bien que quand ils me voient, en fait, c'est pour que je leur dise d'avancer ou s'ils ont un problème de papier ou de documents à avoir. Ou, voilà, c'est de leur trouver un stage, c'est aussi de les faire avancer, c'est aussi de donner la chance. C'est pour ça aussi qu'on a créé l'association, nous. C'est aussi pour avoir cette souplesse pour prendre des stagiaires. Viens juste voir ce qu'on fait. Tiens, regarde. Ça te plaît pas, ça? Ça te dirait pas dans ta vie aussi? Là, dans le quartier, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont passés par l'association et qu'aujourd'hui qui travaillent. Il y en a plein. Mais c'est ça, en fait, qu'il faut se dire. Moi, c'est ce que j'aurais aimé aussi à mon âge. C'est qu'on me donne cette chance-là, en fait. Tiens, vas-y, tiens, gère ça. C'est bon, tu sais nager ou pas? Non, tu sais pas nager, nage. Saute quand même. Et va apprendre, tu vois. C'est ça le truc.
J'étais une sale môme. J'étais une sale môme. Pour moi, je pense que c'est... déjà, premièrement, je faisais pitié. Vraiment pitié, c'est honteux. Et deuxièmement, je pense que je devais avoir un très gros mal-être pour être comme ça. Une personne qui est bien dans sa peau, elle n'a pas envie d'agresser les autres. Après, je ne me trouve pas l'excuse comme « oui, ça n'allait pas à la maison ». Non, c'est fou, chez moi, ça allait très bien, donc il n'y avait pas ce souci-là. Peut-être un père absent, je ne sais pas, c'est peut-être ça jouait. C'est une connerie d'ado, quoi. C'est. Je sais pas, je trouvais ça un peu ridicule. Nous, ça nous a bien fait rire.
Vous aviez l'impression de semer la terreur?
Ça dépendait avec qui. Oui, il y en avait certaines où je me disais, ouais. Enfin, je leur disais à mes copines, c'est bon, laisse-la tranquille. Tu vois bien, faut pas taper quelqu'un juste pour le taper. On va pas taper quelqu'un de plus faible juste pour essayer de raconter. T'as rien de glorieux. Ça sert à rien. C'est nul.
Ça, c'est le dossier de... C'est toute la procédure, du début jusqu'à la fin.
Donc, c'est un gros dossier d'assises.
Ouais. Donc là-dedans, vous avez les photos des banques, les photos, les clichés de nous, à l'intérieur aussi. Comme vous pouvez constater, on est complètement relâché, on se croit à la maison. Avant, on y allait avec des perruques déguisées, maintenant, il n'y a plus rien, il y a à peine une moustache. Pour être reconnu, il n'y a pas mieux. Les photos des armes aussi, qu'ils ont retrouvées. Les bulletins scolaires. Quand j'étais en CM2. Là, vous avez le guichet de Charenton-le-Pont. Donc, ils ont pris des photos d'un peu partout. Et du coup, je reçois une date d'audience. Entre-temps, on peut presque dire que je suis exemplaire, franchement. Et quand ils voyaient tout ce que je faisais, mon implication et tout, j'avais un paquet comme ça de documents attestant de mon comportement, de tout ce que je faisais, etc. Tous les voyants étaient ouverts en fait. En tout cas, ils ont été dans ils m'ont donné ma chance. Je pense que la justice m'a donné ma chance à l'époque. Du coup, j'ai eu une condamnation qui correspondait à autant que j'ai fait, parce que j'ai pris 5 ans d'emprisonnement et j'ai été conditionnable, ce qu'on appelle conditionnable, c'est-à-dire vous pouvez demander une liberté conditionnelle à la moitié de votre peine. Donc eux, ils ont donné une peine exprès comme ça. C'était vraiment vous condamnez quelqu'un à 5 ans, vous savez qu'il en est déjà 2 ans et demi, il sort quoi. Juste le temps de faire ses papiers. Je suis libéré un vendredi et un lundi, j'intègre directement le centre de formation. Première fois de ma vie que je prends le métro. Un trajet de 20 minutes, j'ai dû le prendre en 1h30. Et donc, ouais, j'intègre ce centre de formation et là, je m'accroche et c'est hyper, hyper dur. Hyper dur parce que j'ai pas de sous. Il y a des fois, je mange pas à midi. Dès que midi arrive, je vois, ils ont tous leurs trucs et tout. Ils vont manger à gauche, à droite. Il y avait un parc à côté. Soit j'allais courir, soit. Enfin, j'esquivais, quoi. Et je revenais entre les deux. Et pour couronner le tout, sur le chemin du retour, je me prenais des amendes pas possibles de transport. Et à l'intérieur, je sentais bien qu'il y avait un truc qui était en train de chauffer. Je me disais, putain, si c'est ça la réinsertion. Mais... Oh là là. Je vais pas tenir longtemps, c'est trop dur. Et finalement, j'ai réussi à passer cette période hyper difficile de. Parce qu'il y a une grosse remise en question, en fait. Vous êtes tout seul, vous réfléchissez. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut pas le coup? Et en même temps, je me dis, j'ai pas fait tout ça pour rien. Je vais pas retourner en tôle pour des... Il y a des petits démons comme ça qui. Faut se battre hein, contre ça, hein, franchement.
C'est-à-dire, on se dit, après tout, allez, un de plus et je pourrais voir venir. Il faut vraiment se battre contre la tentation d'y retourner.
Bah déjà, quand je suis sorti, tout le monde m'attendait. Tout le monde m'attendait, mais pas pour. Pas pour aller à l'école. Ils se sont dit, lui, bon, il va tenir un mois comme d'habitude et il va revenir. Un mois, deux mois, trois mois, il revient pas. Qu'est-ce qui se passe? Et je me suis vraiment coupé des copains, en fait. Et ça, il y en a plein qui ne l'ont pas compris. Mais je m'étais forgé un mental en maison d'arrêt. Franchement, j'avais connu pire. Donc, j'ai réussi à surmonter ça. Et une fois cette épreuve-là passée, le plus dur était fait.
Après sa formation, Fouad a été recruté comme joueur de foot dans un club professionnel pendant 2 ans, avant de devenir éducateur spécialisé dans une maison d'enfants placée. Il est aujourd'hui éducateur sportif à Aubervilliers. Michael a longtemps mené de front l'animation sportive et la boxe de haut niveau. Aujourd'hui, il est à la tête d'une association qui embauche 25 personnes en bordure du quartier où il a grandi à Villiers-sur-Marne. Aurélie vit en Seine-et-Marne avec son petit garçon. Elle est auxiliaire de vie scolaire.
Et ben là, on est dans mon appartement, mon modeste appartement, à Aubervilliers, pas très loin de la mairie.
Loin du quartier où vous avez grandi?
Pas trop loin, mais pas trop proche non plus. Mais disons que la situation géographique où je me trouve fait que quand je sors, je tombe pas sur les anciens, quoi. Des fois, j'entends des copains qui sont dans une posture de « Ouais, faut rien regretter dans la vie, faut... » Ben non, pas du tout, moi. Moi, je regrette tout. Si je pouvais tout changer, je changerais tout. Tout. Vous savez, quand vous arrivez à vivre dignement de votre salaire, il n'y a aucun problème. Et moi, j'ai eu de la chance là-dedans aussi. Je pense que c'est vraiment une affaire de rencontre. Il y a des gens, si je n'avais pas rencontré, peut-être, ça serait peut-être pas pareil. Hein.
Une adolescence délinquante avec Aurélie, Fouad Amar, Michael Bourceau et Marwan Mohamed, sociologue. Merci à Daniel Marcelli, Muriel Aiglin, Soisig Lewey et Sophie Cartier-Bresson, ainsi qu'aux équipes d'Île-de-France de la PJJ. Musique originale, Eliaou Aziza. Attachée d'émission, Christine Bernard, Alison Sinard. Coordination, Irène Melianenko. Prise de son, Marcos Darras. Mixage, Jean-Michel Bernot. Un documentaire de Camille Jusa et Julie Béressy pour Sur les Docks.